Je remercie John Marenbone d'avoir fait le compte-rendu de son propre livre. C'est effectivement une situation peu commune, mais assez fructueuse, je pense. Alors, je me donne la parole pour faire quelques mots de commentaire et pour essayer de proposer en fait une entrée possible dans ce livre qui expliquera pourquoi peut-être en fait ce livre n'est pas sans rapport avec la question de l'hétérodoxie. Donc, dans ce livre érudit et subtil qu'il vient de nous présenter, John Marenbone entend mettre au jour un problème païen qui court tout au long d'un Moyen-Âge, aux limites étendues du IVe au XVIIe siècle inclus. Et par problème païen, il entend un ensemble de questions et de problématiques relatives à la question du salut sans la foi, hors de la révélation, donc questions qui agitent les réflexions intellectuelles pendant toute cette période. De façon plus précise, le problème païen est structuré autour de trois axes principaux: la possibilité d'une connaissance de Dieu sans la révélation, la possibilité d'une pratique effective de la vertu sans la foi, c'est-à-dire sans la connaissance du vrai Dieu, et la possibilité du salut sans connaissance révélée du vrai Dieu. Ce problème qui se met en place avec saint Augustin et Boèce émerge véritablement et pleinement avec Abélard et court jusqu'à Leibniz au moins. Alors je précise au moins car, sauf erreur de ma part, John Marenbone laisse sans réponse la question de savoir quand et pourquoi le problème païen disparaît. Quoi qu'il en soit, l'intérêt de ce problème païen, qui est indéniable, est de fonctionner comme le révélateur d'une tension fondamentale, voire d'un ensemble de contradictions qui traversent toute la période médiévale. Cette tension pourrait être exprimée par la question que j'ai déjà énoncée en introduction tout à l'heure: comment peut-on penser l'altérité radicale de la croyance dans le cadre universaliste d'une religion révélée dont la dimension sotériologique est fondamentale? Comment peut-on et le peut-on seulement? Donc, on le voit, en ce sens, le livre nous conduit au cœur même du problème de l'hétérodoxie, même si c'est une hétérodoxie différente de celle qu'on a vue avec Thomas Scott. Et en un sens, ce livre nous permet de dépasser l'alternative exclusive entre More et Niedermann, entre persécution et tolérance, que j'ai mentionné en introduction. En effet, une façon possible d'entrer dans ce livre d'une grande richesse, et ce sera un angle très limité qui ne rend pas compte de l'ensemble de l'ouvrage, donc une façon possible d'entrer dans ce livre, c'est la question de l'invention du relativisme, voire, mais de façon plus discutable, et John Marenbone ne s'engage pas véritablement dans cette voie, à mon avis, l'invention de la tolérance. De fait, l'ouvrage est rythmé par une structure ternaire qui revient régulièrement et qui repose sur l'identification de trois attitudes possibles face aux païens: unité, rejet ou relativisme, c'est-à-dire valeur locale, contextuellement déterminée du savoir et des vertus des païens. Ce relativisme restreint ne remet pas en cause directement le cadre universaliste de la pensée médiévale chrétienne, mais il autorise une prise en compte autonome de l'altérité. Donc il ne s'agit pas de chercher des cas médiévaux de tolérance, d'athéisme ou de relativisme même, entreprise vaine et inutile, mais de raisonner en termes de conditions de possibilité. Qu'est-ce qui, au Moyen-Âge, rend conceptuellement, intellectuellement possible tel ou tel phénomène, comme la tolérance par exemple, qui apparaîtra plus tardivement? Et cela, John Marenbone le dit explicitement à la page 223 à propos de William Langland, dont il a déjà parlé, et dont le mérite dans Piers Plowman est, dit-il, d'ouvrir un espace conceptuel. Et je crois que c'est ça vraiment la formule clé de ce livre, c'est de comprendre comment les médiévaux ouvrent un espace conceptuel. Alors, si l'on suit cette ligne de réflexion, il est une conclusion qui, à mon avis, ressort immédiatement. C'est que quand on s'interroge, et c'est une conclusion qui peut paraître surprenante au premier abord, quand on s'interroge sur les lieux littéraires de l'hétérodoxie médiévale, il me semble qu'un rôle moteur doit être reconnu à la littérature. Et par cette catégorie moderne peut-être inadéquate, j'entends les ouvrages dont l'horizon d'attente va au-delà du public universitaire, dont les formes ne répondent pas nécessairement aux critères de la dite université, et qui sont souvent écrits en langue vernaculaire. Donc, je félicite l'auteur d'avoir passé outre la recommandation, à mon avis, tout à fait déplacée de cet expert de Princeton qui n'avait pas vu, je pense, le cœur même de l'ouvrage. Donc, ce n'est pas l'université qui invente le relativisme, malgré les pages sur Siget de Brabant et Boèce de Dacy, mais c'est d'abord, je pense, la littérature, et notamment la littérature de voyage, notamment en Asie, comme cela a été rappelé. Et on peut dire que, par exemple, l'histoire des Mongols de Jean de Piano-Carpini en 1230 est peut-être l'une des premières occurrences de cette question du relativisme. Mais c'est véritablement, je pense, au XIVe siècle que l'on trouve un début de relativisation des mœurs chrétiennes. Dans deux œuvres importantes, donc d'une part le Piers Pomann de William Langland et d'autre part le Livre des merveilles du monde de Jean de Mandeville ou du pseudo Jean de Mandeville, je ne sais pas comment il faut dire. Donc le premier étant au maximum la promesse du salut au point de lui faire perdre presque tout contenu. Tandis que le second cherche l'unité de l'expérience religieuse par-delà la diversité des pratiques, au point que, dans ce cas précis, John Marrenbone va jusqu'à parler d'un plaidoyer pour la tolérance à la page 123. Alors, il est intéressant de constater, en prolongement de ces remarques de John Marrenbone, de constater que Carlo Ginzburg utilise la même expression, donc de tolérance, quand il présente le texte de Mandeville, qui est l'un des auteurs de référence du fameux meunier Menocchio, dans Le fromage et les vers. Donc c'est à partir de la lecture de ce texte, notamment, que Menocchio formule ses opinions hétérodoxes. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je pense qu'il serait utile de faire un jour la généalogie de cette idée, déjà présente chez le philosophe des Collationes d'Abélard, donc cette idée d'un noyau spirituel nécessaire et suffisant, composé de l'amour de Dieu et du prochain, par-delà toute différence culturelle, donc noyau spirituel suffisant pour qu'il y ait véritablement culte de Dieu. Ce serait utile puisque je pense qu'on a là vraiment un élément clé dans le processus de relativisation de la dimension institutionnelle des religions. Mais je referme ma parenthèse. Donc il apparaît, me semble-t-il, que la remise en cause de l'hégémonie culturelle et intellectuelle de l'Église se fait à la marge, dans les textes qui produisent des effets concrets, comme le montre le cas de Menocchio, donc dans les textes littéraires. La littérature apparaît comme le lieu d'expérimentation de l'altérité des croyances, en particulier, comme cela est rappelé page 223 par John Marrenbone, en raison d'un contrôle institutionnel et intellectuel plus faible dans ce type d'écrit. Néanmoins, et ce sera ma première question, première remarque, ces écrivains sont, dans leur majorité, des clercs éduqués à des degrés divers dans les structures d'enseignement médiéval, et leurs idées ne sont peut-être pas totalement isolées de la culture universitaire. L'accent mis sur les conditions de possibilité conceptuelle de la tolérance exigerait indubitablement une enquête approfondie sur l'origine savante de ces idées. Alors, faute de place, sans doute, cette enquête ne pouvait pas être proposée dans ce livre, mais on se prend à regretter que les œuvres littéraires se voient consacrer des chapitres séparés, comme le montre le plan, qui donne une impression de juxtaposition des mondes universitaires et littéraires, alors même qu'il y a sans doute une plus grande interpénétration de ces deux mondes. Par exemple, les positions surprenantes de Thomas Bradwardine sur l'idolâtrie, surprenantes puisque ce théologien qui critique les nouveaux pélagiens semble défendre en quelque sorte l'idolâtrie des païens. Donc ces pages sur Bradwardine produisent un effet d'écho avec les propos de Jean de Mandeville, qui propose une position assez similaire. De sorte qu'un rapprochement entre les deux, et peut-être plus généralement avec la théologie anglaise des années 1330, aurait pu être fructueux pour le propos porté par le livre. Alors cette remarque me conduit à un second point d'ordre plus méthodologique. Comme on l'a dit, comme cela a été rappelé par John lui-même, cet ouvrage est un plaidoyer pour un long Moyen-Âge, encore plus long que celui de Le Goff, je crois. Simplement, John insiste à juste titre sur le fait que toute périodisation doit être souple et adaptée à son objet. Donc il n'y a pas de périodisation a priori, mais la périodisation se dégage de l'objet qu'on étudie. Dans le cas du problème païen, ce qui le conduit à plaider pour ses limites, donc 400-1700 en gros, c'est que, effectivement, il semble qu'il n'y a pas de changement dans le traitement du problème païen entre quasiment Boèce et Leibniz, voire Augustin et Leibniz. Dans cette histoire, si l'on suit le prisme de l'émergence du relativisme et de la tolérance, quelques figures se distinguent, non pas qu'elles soient tolérantes ou relativistes, mais parce qu'elles mettent en place les instruments conceptuels qui permettront ultérieurement de penser la tolérance ou le relativisme. Il s'agit de Pierre Abélard, de Robert Olcott, par certains aspects de Thomas d'Aquin et de Thomas Bradwardine. Pourtant, leurs positions, qui sont même qualifiées à une occasion par l'auteur de « plus généreuses » à la page 178, semblent minoritaires, voire extrêmement isolées dans le contexte médiéval. De sorte que la question se pose de savoir ce qui rend possible de telles exceptions. Comment, au Moyen-Âge, a-t-il été possible d'avoir cette position, disons, généreuse envers les païens ? On aimerait en fait savoir s'il y a des liens plus ou moins souterrains entre ces théologiens ou s'il s'agit simplement de structures intellectuelles qui produisent des effets similaires à des moments différents. Par exemple, il n'y a pas apparence que Robert Olcott ait connu même indirectement les positions d'Abélard, mais l'un et l'autre défendent une morale de l'intention où la conscience oblige et l'un et l'autre font la promotion de l'intériorité. Donc on aurait peut-être ici deux critères nécessaires pour arriver à cette compréhension plus généreuse des païens. De la même façon, donc, la proximité que j'ai signalée entre Bradwardine et Jean de Mandeville appellerait une clarification des généalogies textuelles, conceptuelles, mais aussi sociales et culturelles. De fait, on peut se demander si, et donc ce sera ma troisième remarque critique, si l'ouvrage, en proposant une histoire conceptuelle, donc une histoire d'un problème intellectuel et des solutions intellectuelles apportées à ce problème, ne court pas le risque d'être accusé de verser dans une forme d'idéalisme. L'ouvrage ne manifeste en effet qu'un intérêt limité pour les structures sociales qui sont à l'horizon des concepts. Et cela peut produire des effets. J'en donnerai deux exemples qui sont liés. Premier point, les structures d'enseignement. Ne peut-on pas penser que la permanence des universités médiévales et des méthodes scolastiques au XVIe et XVIIe siècle est l'un des facteurs qui explique la pérennité du problème païen pendant cette période, même chez les auteurs qui ne sont pas universitaires, mais qui subissent encore l'hégémonie intellectuelle de cette institution? Le problème païen ne serait plus véritablement un problème vivant, mais peut-être simplement un débat scolastique figé, un peu comme une étoile morte dont on perçoit encore la lumière. Deuxième point, la réforme. Elle est étonnamment peu présente, finalement, dans la dernière partie du livre qui couvre la période 1400-1700. Alors certes, plusieurs auteurs protestants sont évoqués, et leurs positions ne sont guère différentes et même parfois plus sévères que celles de leurs collègues catholiques. Néanmoins, ce n'est pas tant la considération des écrivains protestants qui importe que la prise en compte de la réforme en tant que mouvement culturel et social qui fonctionne comme un accélérateur d'hétérodoxie. La réforme transforme indubitablement les conditions de conceptualisation du problème païen en modifiant de façon plus ou moins importante certains concepts qui étaient à l'œuvre pendant tout le Moyen-Âge, comme ceux de foi implicite auxquels le livre consacre de très belles pages, ou celui d'ignorance invincible. Je mentionnais tout à l'heure le livre de Ginsburg, Le fromage et les vers, et Ginsburg y rappelle précisément que deux événements, parmi d'autres, rendent possible l'hétérodoxie de Menocchio, c'est l'imprimerie et la réforme. En quelque sorte, il semble que les possibles conceptuels élaborés par certains intellectuels médiévaux se trouvent actualisés avec l'événement de la réforme. De la sorte, nonobstant l'inertie que la structure universitaire confère au problème païen, on peut se demander si cet événement, la réforme, ne signe pas le début de la disparition progressive du problème païen, qui se trouve remplacé peu à peu par ses successeurs modernes qui sont signalés en conclusion, le relativisme, la tolérance, l'athéisme. Si c'était le cas, il faudrait bien revenir à une rupture entre Moyen-Âge et modernité qui serait amorcée par la réforme. Néanmoins, j'en conviens, dans le domaine de l'histoire intellectuelle, les ruptures franches et brutales sont rares, voire inexistantes, et on assiste le plus souvent à un effacement progressif d'un phénomène pendant quelque temps qui va coexister avec celui qui est appelé à le remplacer. Alors, on le voit... En suscitant la discussion, le livre de John Marenbone, dont je n'ai pu évoquer vraiment qu'une infime partie, mais je voulais juste donner une clé d'entrée dans cet ouvrage, est véritablement un livre qui donne à penser, un livre qui ouvre de nouveaux champs d'enquête. En conclusion, John Marenbone évoque, dans sa conclusion de son ouvrage, donc, il évoque la ressemblance formelle entre le problème païen et les problèmes modernes du relativisme et de la différence religieuse, et il en appelle à une sorte d'histoire analogique qui chercherait à comparer nos problèmes et ceux des périodes historiques antérieures. Alors, je ne sais pas si c'est une concession faite aux experts de Princeton, mais en fait, je crois qu'il n'est pas utile de céder au vertige de l'analogie. Et il me semble que ce livre donne tous les éléments conceptuels nécessaires, non pas pour comparer les phénomènes, mais pour en faire la généalogie, pour montrer d'où viennent nos problèmes actuels, dans quelles histoires ils s'enracinent, tout en s'en dégageant. Il permet ainsi proprement d'accéder à une meilleure compréhension de ces phénomènes, et en pratiquant ce type de généalogie, John Marrenbone a indubitablement produit un grand livre d'histoire et de philosophie.